Le Furet, une chronique de Guy Haddad.
Comme promis et comme prévu, voici le commentaire de Raymond Ibrahim. Les présentations, Raymond Ibrahim, il est né aux États-Unis. Il est de parents coptes d'Égypte. Il parle couramment l'arabe et l'anglais. Il a écrit une thèse de maîtrise sur une première rencontre militaire entre l'islam et Byzance, basée sur des textes arabes et grecs médiévaux. Ibrahim était auparavant dans une langue arabe spécialiste du Proche-Orient. Il a travaillé à la Bibliothèque du Congrès. Il est directeur associé au Forum du Moyen-Orient et il est actuellement le chercheur distingué à l'Institut Gatestone. C'est un chercheur et membre avec Judith Friedman Rosen au Middle East Forum. C'est un groupe de réflexion conservateur américain. Raymond Ibrahim, il est auteur d'un nouveau livre appelé Sword, un scimitar, soit 14 siècles de guerre entre l'islam et l'Occident. Dans une homélie très cinglante, pape François, si je parlais de violence musulmane, dit-il, le pape, je devrais également parler de violence catholique. Et il ajoute, tous les musulmans ne sont pas violents, mais tous les catholiques ne sont pas violents non plus. Raymond Ibrahim nous raconte en vrac ce qu'il a lu dans les journaux, comme par exemple en Irak. Quelques jours après que les hommes armés ont tiré sur Samir Younis, 28 ans, un père chrétien de 2 enfants, 4 hommes sont fait irruption chez Hicham al-Maskouni, un médecin chrétien également, et l'ont poignardé à mort le 10 mars. La mère a essayé d'intervenir, elle aussi a été massacrée, et bien que la maison ait été pillée, les chrétiens locaux ont déclaré qu'ils étaient ciblés en raison de leur identité religieuse. En discutant de ces meurtres, le père Bios Kacha a dit « Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour les chrétiens. » Et la preuve, en effet, de 1,5 million de chrétiens en Irak, il ne reste plus aujourd'hui que 450 000, hélas. Et le père Bios de rajouter « Nous sommes considérés comme un agneau à tuer à tout moment. » D'autres à Bagdad ont exprimé le même sentiment en tant que chrétien. « La vie est belle, tant que vous n'avez pas d'ennemis », a déclaré un dissident. Aussi, vous ne devriez pas attirer l'attention sur vous-même. Je me sens déprimé à cause de ce qui s'est passé pour Hicham et sa famille, même si que... Voilà ce qu'il a dit. Et Raymond Ibrahim de continuer en Égypte, qu'il connaît particulièrement bien. Les musulmans ont bloqué la légalisation d'une autre église, cette fois dans le village d'Altout. Selon le rapport, la petite église de 10 ans de la Sainte Vierge, qui dessert quelques 400 villageois coptes, a été construite en tant que maison de village au milieu d'une collection de quelques 70 maisons de coptes. Elle a été utilisée pour le culte même, si elle n'a jamais eu une licence en tant qu'église. C'était une situation très courante en Égypte. Les coptes ont eu recours au culte dans les églises non autorisées en raison du besoin urgent de la population croissante et surtout de la quasi-impossibilité d'obtenir une licence pour construire une église dans un pays musulman. En 2016, une loi célèbre visant à alléger les restrictions imposées aux églises a été adoptée et l'église Al-Tout a été parmi les toutes premières à être inspectée par un comité pour approbation entre parenthèses. Mais alors, nous dit Raymond Ibrahim, les musulmans de ce village ont eu vent de la question et les appels ont été diffusés par des microphones de mosquées dans le village. Des milliers d'entre eux ont manifesté contre le fait qu'il y avait une église dans le village. Ils ont attaqué en criant « Allah Akbar » comme d'habitude, les maisons des coptes avec des pierres et ils se sont précipités pour construire hâtivement un bloc de mur bloquant l'accès à la rue menant à l'église et ce faisant, plaçant les maisons des coptes en état de siège, mais il n'y avait pas, à ce moment-là, d'église à cet endroit. Il a été rajouté, les seuls lieux de culte qui peuvent être construits dans ce village sont des lieux de culte musulmans pour Allah Akbar. En Indonésie, monsieur Ibrahim nous dit que deux chrétiens ont été publiquement fouettés devant une mosquée pour avoir joué à un jeu d'enfants censé violer, d'après eux, la loi islamique. D'autre part, cinq personnes, dont un couple, ont été fouettées deux fois chacune pour avoir montré de l'affection en public, recevant entre 6 et 24 coups de fouet avec un bâton de rotin. Raymond Ibrahim veut continuer au Nigeria après avoir enlevé 110 ex-relières à Dapchi. L'organisation islamique Boko Haram a fini par les libérer, à l'exception d'une fille chrétienne, Lia, parce qu'elle refusait de se convertir à l'islam. Selon son père, ils ont dit qu'elle était chrétienne et c'est pourquoi ils ne peuvent pas la libérer. Ils ont dit que si elle voulait être libérée, elle devait d'abord se convertir à l'islam. Le papa de la jeune fille a dit « Alors que je suis très triste, mais je jubile intérieurement parce que ma fille n'a pas dénoncé le Christ. » Retournant un peu en Égypte, d'après M. Raymond Ibrahim, Magdi Farag Samir, 49 ans, enseignant chrétien, a été arrêté le 14 mars et accusé de mépris pour la religion plus familièrement connue sous le nom de loi sur le blasphème, 3 mois après avoir passé un test. Cela a indigné certains étudiants et parents musulmans, et de nombreux coptes sont accusés d'outrage à la religion d'amour et emprisonnés pour rien. La loi égyptienne sur le mépris de la religion ne s'applique que d'un côté, l'islam. Les crimes d'outrage en Égypte ne font référence qu'au mépris de l'islam exclusivement, nous dit Raymond Ibrahim. Arabie Saoudite, le 24 mars, la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale a publié une déclaration dans laquelle elle déclarait être déçue de trouver un contenu incendiaire dans les manuels scolaires saoudiens qui auraient été supprimés auparavant. Une étude menée par la commission a révélé des contenus faisant la promotion de la violence et de la haine envers les minorités religieuses et autres. Bien que le gouvernement saoudien se soit engagé dans la réforme de ses manuels scolaires au cours des 15 dernières années, la présence de ces passages montre clairement combien peu de progrès ont été réalisés et souligne surtout le besoin immédiat du gouvernement saoudien d'exportation de ces manuels au niveau international dans le cadre de son ambitieux processus de réforme. Également, des études antérieures ont montré que les manuels scolaires saoudiens déshumanisent régulièrement les non-musulmans, les chrétiens et aussi les juifs parmi eux. Voilà, comme je vous disais, c'était un documentaire, plutôt une analyse de ce qui se passe dans les pays musulmans vis-à-vis des chrétiens et des coptes, pendant que le pape François dort sur ses lauriers. Permettez-moi de vous rapporter ici une analyse de la situation internationale par Guy Millière. Je trouve un peu plus en liberté de raconter ce qu'il a à dire depuis les États-Unis où il a trouvé refuge. Et écoutez, cet article s'intitule « Comment mourra la cause palestinienne ». Donald Trump n'a pas encore présenté son plan de paix pour le Proche-Orient. Il lui reste à vaincre quelques réticences et surtout obtenir les résultats de quelques actions menées en ce moment. Il lui reste aussi à voir ce qui va se passer en Iran lorsque les sanctions économiques entreront pleinement en vigueur début novembre. Il doit aussi et encore convaincre le roi de Jordanie, le petit Abdallah, et si nécessaire, lui faire comprendre que sans l'argent américain, il pourrait se retrouver singulièrement à manquer d'air et dans la même situation que celle dans laquelle les mollahs de Téhéran sont confinés. Sans qu'on en connaisse tous les détails, on sait que le plan aura des ressemblances avec la solution à 3 États proposée il y a longtemps par John Bolton et qu'aucun des 3 États concernés n'est un État palestinien qui n'existe et n'existera pas dans les fantasmes des anti-israéliens les plus fervents, nous dit Guy Meyer. Alors, l'un des États sera évidemment Israël, avec pour capitale Jérusalem, une et indivisible. Un autre État sera l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi, à qui les États-Unis aimeraient confier aussi la bande de Gaza. Et si l'Égypte occupe du Hamas, il s'en occupera aussi, mais à l'égyptienne cette fois. Et l'on peut gager que la presse occidentale sera moins choquée que c'est Israël qui s'en chargeait. Le troisième État sera la Jordanie. Et ce n'est pas du tout un hasard si des membres de l'administration Trump rappellent ces temps derniers que les Arabes vivant en Judée-Samarie étaient jordaniens jusqu'en 1988, date à laquelle Hussein de Jordanie les a purement et simplement jetés au vidange. Ce n'est pas non plus un hasard si dans la presse jordanienne on trouve ces temps-ci des articles affirmant que la Jordanie a plus de légitimité à revendiquer une part de la Judée-Samarie que les dirigeants palestiniens inventés de toutes pièces. La légitimité de la Jordanie sur tout ou partie de la Judée-Samarie n'existe pas, mais celle des dirigeants palestiniens existe infiniment et moins encore. L'administration Trump joue sur le fait de faire pression pour que l'autorité palestinienne revienne à la table de négociation et s'attend à un refus persistant et permanent qui lui permettra de dire au monde arabe sunnite qu'il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Et ce qui est régulièrement et rigoureusement exact, et il est prévu que le monde arabe sunnite reconnaîtra qu'il n'y a effectivement rien à faire avec ces gens-là, monsieur. Pour l'heure, nous dit Guy Meyer, les dirigeants palestiniens semblent ne pas comprendre ce qui leur arrive et vivent dans un monde parallèle qui bientôt n'existera plus que dans leur tête. Ils prétendent toujours que Jérusalem sera leur capitale, qu'ils veulent le retour de 5 millions de réfugiés et qu'ils n'abandonneront pas la lutte armée. Ils clament qu'ils ont toujours des appuis. Ils feignent de ne pas voir que le régime iranien va très mal et que la Turquie ne se porte guère mieux, et ils invoquent l'Union européenne qui, elle, continuera à les appuyer jusqu'au bout, et ils simulent d'ignorer que l'Union européenne est en train de se fissurer et qui émerge des dirigeants comme Viktor Orban, Matteo Salvini, Sébastien Kurz, pour ne pas les citer tous, et ils sont ceux-là moins enclins à suivre la ligne islamique et hypocritement antisémite et défendu par nul autre que la Mogherini, le Macron et Angela Merkel. La farce sera bientôt terminée. Un commentateur israélien a dit récemment que les dirigeants palestiniens étaient sur le point de passer sous le train lancé à vive allure de la révolution Trump, ne les discernerait en rien. Quand la cause palestinienne sera morte, ce qui, si tout continue sur la lancée actuelle, sera chose faite assez vite, et quand les dirigeants palestiniens seront seuls à vociférer dans leur bureau vide, quelqu'un sera-t-il chargé de leur dire de partir, ou les laisseront-on se soliloquer, écumés de rage dans leur bunker, mis hors d'état de nuire jusqu'à la fin de leur nauséabonde existence? Et quand toutes les autres questions auront trouvé leur réponse, eh ben, il restera à poser cette dernière question. Alors, je me permets tout de même deux petits rectificatifs. Les réfugiés, entre parenthèses, palestiniens, ne sont pas 5,5 millions. Ils sont au maximum, et ça, c'est une pierre d'achoppement très grande, ils sont au maximum à peine 50 000 réellement réfugiés dans le sens réfugié du dictionnaire Larousse. Quant à l'Europe, elle devrait théoriquement être très vite avalée par une Allemagne renaissante. N'oubliez pas, l'Allemagne s'est reformée en 1990, Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest confondues, et aujourd'hui, elle est déjà en tête et elle est la première économie de l'Europe une fois que l'Angleterre aura quitté le bateau.
Le Furet, une chronique de Guy Haddad.